Et oui, c'est la bande originale, une heure de bonheur gratuit, 100% gratuit, que je vous offre, mais alors là, sans retenue. Au menu, Aïssa, Maïga, Fermine Richard, Sylvain Tesson, Dany Laferrière, Jean-François Piège, Anne Charrier, Pascal Elbé et la bande au grand complet, les amis. Le meilleur de la bande originale, attention, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
L'idée, elle a vraiment germé l'année dernière, quand j'ai écrit un texte, mais c'était juste un texte pour me soulager, et c'est le texte qui finalement est devenu le prologue du livre. Et quelques mois après avoir écrit ce texte, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? C'est un texte de quelques pages. Et puis une amie m'a dit, écoute, tu as écrit le début d'un livre. Alors là, j'ai eu très peur.
Le piège.
Et puis voilà, c'est ça. Et je me suis dit, c'est une bonne idée, et en même temps, je ne voulais pas que mon témoignage devienne d'une part anecdotique et qu'en plus on puisse me dire que c'était uniquement ma subjectivité qui était en jeu, que j'étais un peu parano, etc.
Voilà, paranoïa, c'est ça.
Voilà. Et donc j'ai invité mes camarades, j'ai choisi des femmes, certaines que je connaissais, d'autres dont j'admirais le travail sans les avoir jamais rencontrées. Et j'ai voulu m'en tenir à ça, même si, évidemment, ce qu'on raconte concerne aussi les hommes. C'est vrai que le fait de parler de femmes et de femmes qui ne sont pas blanches, qui sont noires, ça permet de parler de la diversité, de la parité et d'aborder finalement beaucoup de sujets.
Et aussi
en,
des agressions sexuelles, parce que.
Oui. Non, mais je dis ça avec un peu d'ironie, oui, parce que c'est vrai qu'on a un florilège.
Mais j'en parle parce que je me suis demandé si le Balance ton porc ou l'affaire Weinstein n'était pas aussi pour vous un moteur supplémentaire ou de l'eau encore plus au moulin en disant là vraiment il y a une libération de la parole, oui. C'est le moment d'y aller.
Oui, en fait, je ne l'ai pas calculé de cette façon-là, mais je pense que j'ai absorbé l'air du temps et c'est vrai que j'ai aussi regarder toutes ces femmes aux États-Unis qui font partie d'un milieu ultra privilégié qui est le cinéma hollywoodien, un microcosme de chez microcosme. Et en même temps, j'ai admiré le courage qu'elles ont eu de raconter ce que les victimes en général taisent, ce que sont les abus sexuels. C'est vrai que la parole de certaines femmes a été mise en doute et ça m'a révoltée.
Il y a un parallèle dans le bouquin entre les agressions sexuelles dénoncées et les discriminations que subissent ces actrices noires. C'est-à-dire que la réaction est la même, celle de la victime. Dans un premier temps, ne pas oser en parler, ne pas savoir à qui le dire, de crainte de ne plus avoir de travail.
Exactement.
Le mécanisme, en fait, il est somme toute assez proche.
Oui.
Et moi, j'ai été complètement sidérée par les témoignages que j'ai lus dans ce bouquin, des phrases que vous avez reçues, soit de façon a priori anodine, lors de casting. Firmine Richard, vous, votre moment le plus pénible de ce point de vue-là?
Je n'ai pas eu ce genre de phrase. J'avoue que bon, je suis arrivée il y a 30 ans et dans un autre contexte.
Vous travailliez avant, vous étiez...
Voilà, j'arrive, j'ai déjà un certain âge, j'arrive, je me retrouve à faire une entrée fracassante avec un premier rôle dans le cinéma français.
Dans Romuald et Juliette.
Dans Romuald et Juliette de Pauline Serreau avec Daniel Auteuil.
Immédiatement un premier rôle en plus.
Tout à fait. Ouais. Donc j'avoue que j'ai eu cette chance-là, mais c'est vrai que je me sentais concernée aussi.
Ce qui est choquant, j'ai pas d'autre terme parce que c'est vraiment le cas quand on lit. Alors c'est encore une fois, c'est pas le bureau des plaintes. C'est fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. La manière dont ces comédiennes, productrices, actrices parlent, c'est aussi surtout pour un vivre ensemble, comme vous le dites d'ailleurs dans le prologue, et pour tendre la main en se disant il va falloir qu'un jour ça soit le cas pour les générations à venir. C'est même pas un cri de gueule sur leur situation là maintenant actuelle, parce qu'on a un sentiment que toutes ont tiré leur épingle du jeu et savent maintenant gérer, d'ailleurs, s'il faut aller ou pas dans une chambre d'hôtel pour lire une pièce de théâtre avec un producteur ou pas. Voilà, il y en a
si
qui...
Si c'est un hôtel confortable, il n'y a pas de mal.
Il y en a qui savent gérer.
Ça dépend du nombre d'étoiles.
Ouais. On est tellement d'accord.
Mais là-dessus, c'est vrai que les phrases de dire quand une comédienne se dit simplement en lisant un scénario, en lisant un script, s'il y a marqué une jeune fille entre dans la salle, sous-entendu, la jeune fille est forcément blanche. Sinon, il y aurait écrit une jeune fille noire entre dans la salle.
Au Bamboula. Alors, c'est dit.
Ou alors, elle a une démarche de gazelle, ou alors ce sont des rôles qui sont forcément infirmière, agent de la poste, prostituée, call girl, au mieux si on parle des étoilées. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est forcément soit objet d'un désir sexuel, soit une condition sociale qui est mis au banc de la société, ou alors dans des films qui se veulent justement le relief de la banlieue, point. Mais si on dit avocate, bah pourquoi on mettrait une comédienne noire ? Il n'y a pas marqué avocate noire. Mmh. Ça, c'est un mal français dans ce que je comprends et dans ce que je lis, puisque l'exemple est donné avec Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, c'est un mal français.
Mais ce qui est assez frappant, c'est que la France est un pays métissé. Ça, c'est la grande différence avec l'Italie. Elle est beaucoup plus métissée que l'Allemagne, que tous ses voisins européens, quasiment.
Et parce qu'elle a passé de colon.
Oui, elle a un passé colonial qui fait que, bah voilà, après les colonisations, il a fallu faire venir. Enfin bon, je vais pas refaire l'histoire, on la connaît.
On a eu besoin.
Mais voilà, la France a eu besoin d'une masse de
ça. Voilà, comme ça parce qu'elle
a différentes vagues successives de main d'œuvre. Et donc aujourd'hui, nous sommes. Voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Et comme dirait Fatou Diome, c'est irrémédiable. On va pas retourner en arrière.
Non.
Voilà, nous on est ici, notre pays, c'est la France, et on va faire avec ça. On va devoir tous faire ensemble. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce vécu français n'est c'est comme s'il n'était pas assimilé dans les fictions, comme s'il n'était pas digéré. Il y a d'un côté la réalité sociale dans laquelle il y a des mélanges, et puis de l'autre côté la réalité de la télévision, la réalité du cinéma qui reste très hermétique, à quelques exceptions près.
Et les exemples
pas représentatifs. Est-ce que vous, les exemples que vous donnez, ce sont des exemples hérités? Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder l'histoire, de se retourner un petit peu. Pas besoin d'être un chercheur pour ça. Il y a des ouvrages très simples, très agréables à lire, qui permettent juste de comprendre que ce sont des constructions historiques et sociales. Et pour moi, il est question vraiment de déconstruire ça pour essayer d'offrir un cinéma, un théâtre, une télévision qui soit un miroir de la société.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Bonjour Sylvain et félicitations pour ton entrée dans le Petit Larousse. Nagui n'y est pas. Donc Nagui, quand vous avez demandé à GNB pourquoi venait Sylvain Tesson, il vous a répondu « Pour un été avec Homer ». Et vous, vous êtes écrié « Super génial, j'adore les Simpsons !» Comme GNB, surmontant sa terreur, a osé préciser « Oh mon bon maître, il ne s'agit pas d'Homer, le mari de Marge, mais d'Homer avec un E, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée ». Alors tout en frappant violemment sur le casque intégral dont GNB avait pris la précaution de se coiffer avant d'oser vous répondre, vous avez hurlé, Nangui. Regarde-moi bien de profil, espèce de raclure de Coulommiers. Est-ce que j'ai le nez grec, hein? Moi, mon gars, je descends en ligne directe de Phimosis Ier, pharaon de la première dynastie. Alors la mythologie grecque. Tu veux me menacer de ton pied, c'est ça? Alors la mythologie grecque et son folklore grotesque, Calypso la roulure, les sirènes allumées, le cyclope demeuré, Circé zoophile, les lotophages complètement camés, tout ce bazar grotesque qui enchante Sylvain Tesson. Moi, je m'en contrefous. Mais Dieu à moi. Ce sont les dieux de l'Égypte antique. Osiris, Isis, Anubis, Pain d'épices, Pubis, Syphilis et Cannabis. Vous êtes sûr, au grand vizir des hommes, que ce sont bien des dieux? Tais-toi et va vite voir Leïla Kadour. Elle a dû se régaler. J'ai pas assez de mots pour dire ce qu'elle a apprécié en lisant le bouquin. Il y a sûrement des mots qu'elle seule emploie régulièrement dans l'émission et qu'elle va nous ressortir. Topos, Helios, Hubris, Cairo, Moira, Kalos, Kagatos, Asania Udroi, Merinos, Albinos,
Vadongimidas,
Aliagas, Nikos. Voilà, Sylvain Tesson, comment se prépare la bande originale. Pour ma part, je n'ai pas le temps de vous exorciser pour ce que vous dites du christianisme qui aurait, je vous cite, porté au pinacle faible à la place du guerrier.
Je trouve qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de se demander qui était Homer. Ce sont un peu des discussions de spécialistes et d'universitaires. Alors que vous l'avez dit, la vérité de l'Odyssée et de l'Iliade, c'est la beauté. C'est la beauté des vers. Il faut ouvrir ce texte, les lire par exemple à haute voix, et à ce moment-là, on peut se contenter de l'incroyable splendeur de ce qui ressort, même musicalement, de ces alignements de vers.
Vous parlez de Philippe Jacotet et de Philippe Brunet, c'est les deux auteurs, les deux traductions que vous avez choisies, qui sont une très belle traduction.
Oui, Brunet a dédié sa traduction à la lecture à haute voix qu'il pratiquait lui-même. Mm-hmm. On appelait un naède, un poète pendant la Grèce antique, et un naède, c'est quelqu'un qui lit à haute voix. C'est très récent, la lecture.
Ça change quoi?
La lecture silencieuse. Ça change d'abord qu'on destine aux dieux sa lecture. On devrait d'ailleurs crier toute la journée à haute voix les poèmes, la poésie. quand vous lisez...
C'est Flaubert qui avait son gueuloir.
Oui, il faisait son gueuloir. Ouais. Parce qu'il s'apercevait, quand il lisait les phrases à ses camarades, enfin, ses camarades, c'était Tourguenieff, Émile Zola et Maupassant. Alors, c'est évident que l'assemblée à qui il destinait la lecture de ses textes était évidemment assez... pouvait être sévère. Mais on s'aperçoit de des erreurs que l'œil ne voit plus quand on lit silencieusement, quand on les destine à la voix haute. C'est un extraordinaire instrument, la lecture à voix haute, de perfectionnement. Vous qui êtes perfectionniste, vous devriez vous exprimer à voix haute, d'ailleurs, mais c'est ce que vous faites.
Ne le croyez pas, si j'étais perfectionniste, vous doutez bien qu'ils ne seraient pas tous là autour de cette table. Vous dites que le fait de déclamer donne une autre dimension, un autre pouvoir aux mots, et pourtant ce n'est pas la même langue, la langue écrite et la langue parlée.
Oui. Non, mais c'est vrai. Mais Homère va même plus loin que cette nécessité d'encourager à lire. Il dit que l'un des critères de l'héroïsme, c'est la capacité de bien parler, la belle langue. Et on voit dans l'Iliade des moments qui pour moi sont les plus beaux, mais il est vrai que je prêche pour ma paroisse c'est les mots, c'est la langue, c'est le verbe. On voit parfois les troupes des Grecs qui sont complètement épuisés, parce que ça fait 10 ans qu'ils se battent, ils ont envie de rentrer chez eux. Et à ce moment-là, il y a un héros qui arrive, qui se met sur la barricade, et qui leur fait un discours splendide. Ça peut être Agamemnon, ça peut être Ulysse, et tout à coup, la troupe est galvanisée par le verbe. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que nous sommes tellement ensevelis par l'image, aujourd'hui, depuis quelques décennies, on se demande si le verbe serait encore capable de nous électriser.
Sauf que c'est un verbe insufflé par les dieux, parce que Ulysse est le réceptacle d'Athéna, c'est la ruse, et c'est Athéna qui le fournit en idée.
Donc c'est qui le manipule, donc.
Il y a une forme de manipulation qui l'alimente, en fait. Donc il y a aussi c'est ça qui est paradoxal, on s'attache énormément à des personnages, et au fond, ils sont un peu des marionnettes, et ils sont le réceptacle.
Ils sont le porte-voix.
Ouais, le porte-voix.
Ils sont la caisse comme de la résonance.
Comme la aide et le porte-voix de ce récit
initiatique.
Et même
le conflit,
initiatique.
De toute façon, c'est à la base une manipulation des dieux, vu que ça a été le choix
de Paris.
Mais c'est toute la question grecque de la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on est les souverains de nous-mêmes, ou est-ce qu'on est des pauvres pions sur l'échiquier où les dieux s'amusent à jouer aux dames, quoi.
Encore un discours très actuel.
Oui, bien sûr, et c'est un discours qui est actuel qui est un discours de l'actualité, mais qui est un discours qu'on peut avoir à l'égard de soi-même devant sa glace le matin, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis le maître de moi-même, ou est-ce que je suis la marionnette de toutes les courants qui me traversent?
France Inter, la bande originale, le best-of.
L'idée qui m'a, moi, un peu étonné, parce que c'est cela, faire un livre, c'est aussi être surpris par soi-même. Et je pensais pas faire autant de pages, puisque je n'arrivais pas à lire 3 pages comme ma mère m'écrit. À la main, on cherche. C'est pas sympa. Mais il y a peu de gens qui terminent la lettre, parce qu'on sait très bien ce que notre mère nous dit, et qu'elle nous aime beaucoup. Et surtout des choses à ne pas faire. Et donc, 320 pages. À 60 pages, j'étais déjà essoufflé. Et à 120 pages, je continuais. Et à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que j'étais parti pour 1000 pages. C'est-à-dire pour rester là, dans cet univers.
Alors, nous avons parlé de la forme, nous avons parlé de la quantité.
C'est quand même très mal écrit. Quelquefois, on va vous offrir une imprimante.
Parlons.
Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est, tout n'est pas fait pour être lu. Et comme toujours, par exemple, la page de Balzac, où il y a, tous les titres des romans de Balzac. L'idée, c'est ce que l'œil aussi, vous savez, si on écrit à la main, l'œil regarde différemment. Et par exemple, c'est vrai, quand on dit que c'est mal écrit, on n'arrive pas à lire, c'est qu'on n'a pas lu de texte à la main plus de 3 pages, même de notre maman, depuis très longtemps.
C'est vrai.
Donc
oui,
il faut réexercer.
Oui, et puis vous nous poussez à l'effort d'aller chercher ce que vous avez voulu nous dire.
Effort-là, c'est ralentir la lecture. Vous savez, depuis peut-être 50 ans, on ne cesse de nous dire, pour dire qu'on aime un livre, je l'ai dévoré. Eh bien, on ne peut pas dévorer cette bête. C'est elle qui va nous dévorer,
elle
nous pousse à ralentir. Beaucoup de gens me disent, est-ce que j'ai tout assez de temps pour lire ça? Mais il s'agit de votre temps.
Alors, vous dites que c'est Autoportrait de Paris avec chat. C'est le titre que vous avez choisi. C'est votre autoportrait, plus que celui de la ville de Paris, parce qu'on se promène quand même à Port-au-Prince, on se promène à Montréal. Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'auteurs qui sont
évocations,
cités.
Déclarations d'amour. Ouais,
comme s'ils étaient vivants, c'est ça qui est génial. Il y a des dialogues même reconstitués entre des personnages, qu'ils soient littéraires ou cinématographiques. C'est une espèce de déambulation expression de libertinage de l'esprit. Je crois même que l'expression
oui,
que vous
oui,
l'employez.
Tout à fait, merci. Parce que, bon, je n'ai pas osé, j'ai dit autoportrait de Paris, mais on ne peut pas faire un autoportrait de Paris. C'est une ville qui résiste à tout. J'avais même pensé que pour écrire un livre, il fallait vivre dans une ville qu'on n'aime pas. Et j'ai écrit 12 livres en 10 ans à Miami, parce que quand je ne sortais pas, quand écrire, c'est rester assis. Et donc, je n'avais pas l'impression d'avoir perdu grand-chose, à part le soleil. Donc, Paris, on ne peut pas écrire sur Paris. On est tout le temps appelé par Paris. Mmh. Et les gens ne cessent de venir. Les siècles sont toujours présents. C'est une ville écrite, Paris. Vous flânez dans Paris, vous voyez, ici, Balzac est mort. Ici, Borges a passé quelques jours à cet hôtel. Et ils vont même jusqu'à dire, et Sartre est passé devant cet hôtel. et tellement, c'est une
La
ville
Martine
qui ne résiste
pas. Martine a éternué
au
coin de
c'est cela.
Si Nagui a acheté cette maison.
Non. C'est bon ça.
Si la Martine est éternuée devant, oui, ça, je m'intéresse.
Donc c'est une ville qu'on ne peut pas. Et donc j'ai pris l'audace de dire autoportrait de Paris, mais en fait c'est autoportrait de moi dans Paris.
Et oui.
Et dans cette ville avec tous.
De ce que vous ressentez, des endroits que vous aimez, ce que vous visitez, de bancs dans lesquels vous allez à 17h, quoi qu'il arrive, qu'il fasse beau ou qu'il fasse laid.
Oui.
J'adore cette expression. Il fait beau ou il fait laid. À
oui,
17h, je vais au Palais Royal.
C'est là qu'on se trouve, sur un banc du Palais Royal. Vous savez, l'une des images qui avait surnagé au moment d'écrire ce livre, j'étais journaliste dans un grand quotidien de Montréal, et j'écrivais
une chronique. Là, vous avez écrit votre premier roman.
Oui, en fait, tous mes livres, à peu près, sauf celui-là. Et tout mon esprit était resté à Montréal. Et mon corps était à Miami, d'ailleurs, je le dis, je suis un homme en trois morceaux. Et mon cœur est à Port-au-Prince, et mon corps était à Miami à l'époque, mon esprit était
à Montréal.
À Montréal, et j'espère maintenant mon âme se trouve à Paris. Et donc j'écrivais cela, et j'avais écrit une petite chronique, et je disais là-dedans que j'étais à Paris, dans une allée un peu mal éclairée, et un peu avec des paniers de poubelle. Et au bout de l'allée, il y avait un panier à salade, quelques policiers. Et je ne sais pas pourquoi, je suis sûr d'être dans la plus belle ville du monde. Alors, le directeur, le rédacteur en chef a lu ça. Il l'a reçu, on a des décalages horaires. Et la nuit, il secoue sa femme, il dit « Marie, on va à Paris demain ». Il dit, j'avais oublié que cette ville était aussi belle. Une ville où il y a une rue comme cela,
mal éclairée,
des policiers, et Dany dit que c'est la plus belle ville du monde. On avait oublié cette partie. Et donc, je crois aussi qu'une ville se présente dans tous ses aspects. C'est une sensation. C'est-à-dire, on est dans cette ville, dans cet endroit de la ville, ça nous empêche pas de visiter des endroits que l'on ne connaît pas en même temps.
C'est la sensation. Comme vous le dites d'ailleurs dans votre roman, les Parisiens, et nous les premiers, on ne connaît pas cette ville. On y vit, on y passe.
On la traverse.
Et on se met à la découvrir que lorsque vous dites un cousin, une cousine ou un ami, on se dit, tiens,
on va
aller visiter, on va aller au Sacré-Cœur,
Intellectuellement, quand j'arrive à Paris, souvent à l'aéroport, je croise un Parisien qui me dit, vous êtes là pour longtemps? Ben, je passe 8 jours. Il faut absolument aller voir cette exposition des dessins d'Holbein. Et là, il vous récite ça, c'est très bien. Et vous l'avez vu? Ah non. Comme si c'était une mauvaise chose pour cette personne d'avoir vu ces dessins. Donc, il y a un partage. À un moment donné, j'avais pensé que c'était des gens que le ministère de la Culture avait placés dans les aéroports.
Dans ce roman, on découvre votre passion pour la lecture, pour l'objet même du livre en lui-même, y compris l'Iliade dont on a parlé hier avec Sylvain Tesson, et on lui a dit, donc c'était le pont, c'était le lien, puisqu'il a consacré son dernier livre à Homère. Votre passion, bon, pour la littérature, pour la musique aussi, c'est à la fois vos goût et aussi une analyse, une introspection sur celui que vous êtes, ce que vous aimez faire, même lorsque vous dites, quand je vois des films où les héros mangent, ça me donne envie de manger des spaghettis et ça déclenche la faim.
Il y a une belle scène dans Le Parrain et si on regarde cette scène, on n'a pas envie de manger du spaghetti, on a un problème.
on n'a pas compris le film.
Bon, on n'a pas eu de maman.
Pareil avec le cheval.
La Belle et le Clochard, moi, ça me fait ça à chaque fois.
Et quand vous regardez La Grande Bouffe aussi?
Ah non, La Grande Bouffe, non. On n'y va pas.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien, même très bien sur France Inter. Et vous serez encore bien mieux après le live de Morshiba. Never Undo. Morshiba en live dans la bande originale avec Never Undo. Original, ça on aimerait bien. Enfin bon, Alison Wheeler.
Bonjour à tous, c'est Marie Sistit de la Manif pour tous. Oui, elle aime péter, mais surtout, elle aime l'ordre. Je vais pas passer par quatre chemins aujourd'hui, j'en ai marre du jeûne. Et pour une fois, ça n'a rien à voir avec le ramadan. Hier, je regardais mon sublime Jean-Baptiste Boursier sur ma chaîne préférée, BFM TV. Oui, j'adore Jean-Baptiste Boursier, je trouve que c'est un homme qui porte si bien son nom. C'est un nom qui porte à droite, si vous voyez ce que je veux dire.
Ça va pas.
Alors, quand on Jean-Baptiste, encore une fois, les étudiants bloquent les partiels. ciel à Lyon, Marseille, Paris 8 et Limoges. Ah mais quand je vois ça, mais j'ai le vague à l'âme, mais l'âme dans The Island, hein. Ça me fout des stars plein la gueule de voir des destins brisés par la bêtise et l'immaturité étudiante. Oh hé, les étudiantes de gauche, que revendiquez-vous? Vous faites blocage sur blocage, on va où comme ça? Vous vous prenez pour l'imodium de la société ou quoi? Vous reprochez à l'université d'être trop sélective, d'augmenter les inégalités, d'être injuste. Mais vous savez, la vie est injuste. Il y a des sélections partout dans la nature. Par exemple, dans les portées de chiots, la mère abandonne les plus faibles, c'est la nature. Et ils ne viennent pas bloquer des concours canins pour autant en brandissant des banderoles avec écrit « What the fuck ?»
Non.
C'était plus drôle dans ma tête.
Ça passe.
Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont tout de suite. Nous, avant, on voulait aller quelque part, on prenait un vélo. Les jeunes, maintenant, ils vont sur Uber. Quand on voulait avoir un rapport, on allait à l'aumônerie. Eux, ils vont sur Tinder. Hein. Ils ont le chétan, je vous le dis. Hein. Ah, ça, c'est la meilleure. Les étudiants refusent de confier leur avenir professionnel à l'algorithme de Parcoursup. Mais lorsqu'il s'agit de leur avenir sexuel, là, il n'y a pas de problème. Hein, parce que Tinder, excusez-moi, mais ça n'est rien d'autre que le Parcoursup de la tub. Le parcours tub. Vous savez, la France ne va pas vous allaiter jusqu'à vos 18 ans. Vous ne pouvez pas téter la France indéfiniment. La France a mal aux mamelles, vous comprenez? Allô? La France, elle est sain aux genoux, elle est fatiguée. Non, la réforme des universités n'est pas injuste. Spoiler alerte, c'est la vie qui est injuste. Et l'université vous rend service en vous formant très tôt à l'injustice. Faut pas croire que l'avenir va vous sourire comme ça, parce que bien souvent, ce qui vous attend dans la vraie vie, c'est un sourire de Didier Deschamps. Mais ça n'est pas le monde dont je rêve. Ce qui me fait rêver, c'est un monde plus juste, plus égalitaire, où chacun a les mêmes chances de se faire discriminer, de se retrouver dans la filière qu'il n'a pas choisie, hein, et de finir chroniqueur sur France Inter. Alors ne gâchez pas tout avec vos utopies, avec cette réforme. C'est au moins l'égalité des malchances garantie pour tous. Hein.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie.
Oh yeah. Fan de l'idole depuis toujours ?
Toujours. Ouais.
Toujours. 83.
C'est une date importante dans votre vie, Jean-François Piège, parce que c'est l'histoire d'un déjeuner qui change une vie. Alors, parfois, on rencontre la femme de sa vie. Vous êtes tombé, on va dire, en amour avec un métier.
Oui, c'est un déjeuner dans la ville où je suis né, à Valence. Chez le père d'une cuisinière aujourd'hui très connue qui s'appelle Anne-Sophie Pic, c'était son papa Jacques Pic. Et c'est un déjeuner, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai encore le menu rangé
dans vos archives personnelles.
Dans mes archives personnelles, je suis un peu archiviste. Et c'était dingue. Après, je sais.
C'était dingue, pourquoi c'était dingue?
Parce que c'est la première fois que j'allais dans un restaurant gastronomique.
Ouais.
Que c'est un.
Vous avez 13 ans.
J'avais 13 ans, et c'est en plus une histoire assez rigolote, c'est que pour se payer ce repas, on jouait au rami avec ma maman. Celui qui payait, de toute façon, celle qui payait, celle qui me donnait l'argent.
Oui, mais c'est
bizarre. Non, circuit fermé.
Ouais, mais sauf que il y avait élégante pour voir qui allait.
Voilà,
faire
et
le geste.
On jouait au rami et on s'était fait une cagnotte. Je crois qu'on a dû mettre 2 ans.
Mais est-ce qu'à 13 ans, on a les papilles
C'est pour ça que
structurées pour aimer la grande cuisine.
Je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que j'ai mis un petit doute, parce qu'en fait, c'est comme le vin. Le vin, pour savoir ce qu'est du Pétrus ou de la Romanée Conti, il faut avoir goûté beaucoup de vin et plusieurs fois. C'est comme ça qu'on peut en apprécier la qualité.
Ah, Daniel.
Ah ouais. je bosse.
Ouais, d'ailleurs, il y en a un joli verre. Tu vois. Et donc, en fait, non, je suis pas sûr, mais en tous les cas, ça m'a provoqué beaucoup d'émotions et c'est important, en fait.
On peut pas écouter Johnny sans évoquer le manque et son absence. Vous avez accompagné Johnny pendant plusieurs, peu importe, semaines, mois, années, mais pratiquement jusqu'au bout.
Ouais, c'était quelqu'un de rare, en fait. Rare parce qu'il savait, ça tombe sous le sens, il avait tellement voyagé, tellement tout goûté, que quand il disait quelque chose, ça me touchait parce que, d'une part, c'était quelqu'un d'élégant, gentil, enfin, je vais pas faire une liste non exhaustive des adjectifs qui peuvent le qualifier, mais il avait une connaissance assez incroyable du monde, et du monde de la cuisine, parce qu'il était tous les jours au restaurant, il a été dans tous les restaurants du monde. Et j'aimais bien partager ces moments avec lui.
1992, vous écoutiez Téléphone.
Je rêvais d'un autre monde.
C'est un master rock.
Où la terre serait ronde.
Il y a jamais de musique dans les cuisines. Pourquoi?
Si, le matin.
Ah, vous mettez de la musique?
Ouais, le matin. Ouais.
D'accord. Il y a une playlist ou c'est chacun fait ce qu'il veut?
Quand je suis là, il y a celle qui est organisée. Quand je suis pas là, il faut ce qu'il veut.
Et dans l'itinéraire d'un cuisinier, c'est un peu comme l'itinéraire d'un peintre. Il y a des périodes. Et 92, ouais, c'est la période Ducasse.
C'est un homme qui m'a...
À Monaco, hein.
Qui m'a guidé, qui s'appelle Bruno Cirino, qui avait travaillé avec Alain Ducasse, qui m'a dit... dans ta vie, il faut que tu ailles travailler dans un hôtel, parce qu'un jour, tu seras peut-être le chef d'un hôtel. Et il m'avait envoyé travailler au Crayon avec Christian Constant. J'étais le chef du Crayon. Et il m'a dit, il faut que tu travailles avec un grand maître. Et donc, il m'avait envoyé chez Ducasse. Je suis resté 12 ans.
Et Ducasse, c'est la compétition aussi au sein de sa cuisine. C'est-à-dire, il faut être le meilleur, parce que quand il y a une place à prendre, peu importe l'ancienneté, on va dire, hein, dans la cuisine,
ouais,
ce qui compte, c'est la performance.
C'est la performance. Ouais. Ouais. C'est une école de performance assez incroyable. Après, ça marchait bien dans ces années-là. Je ne sais pas si aujourd'hui ça marchera encore.
Et quelle nature vous étiez, vous, à l'époque? Parce que confronté à la compétition, on n'est pas tous égaux. On y va avec la boule au ventre à la cuisine, en cuisine, en se disant « il faut que je sorte le meilleur aujourd'hui », mais c'est assez aléatoire tout ça.
Oui, c'est aléatoire. Mais je pense que la boule au ventre, soit on la prend comme un fardeau,
ouais,
et c'est cette boule qu'on tire, soit c'est une motivation. Moi, c'est une motivation, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas être lisse. Mais il faut avoir envie de faire plaisir aux autres.
Et vous lui avez fait plaisir, Alain Ducasse. En 2000, vous êtes son chef au Plaza Athénée.
Il me dit, on ouvre quand? On devait ouvrir le 22, 23, 24. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on était plusieurs, hein, je n'étais pas le seul. Je dis, bah, on n'a qu'à ouvrir lundi. Lundi, c'était lundi 25 septembre 2000. Et, c'était le jour, et je rigole, je dis, tout le monde, c'est le jour de mes 30 ans. Ah ben, bah, allez, on y va. Voilà,
ça fait la blague. Ça a fait surtout 3 étoiles. Ensuite, en 2001. En 2010, vous écoutiez...
On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas. Toi, la télé et moi.
Tiens, la pizza, c'est sans gras. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre dans une pizza.
Ah non. Mais c'est franchement, c'est un des trucs que je kiffe.
La pizza?
Ah ouais, j'adore. Pardon, mais...
Il y a du gras dans la pâte, non?
Dans la pâte, il n'y a pas beaucoup, mais c'est surtout si on
ça
met
pâte à pain.
Beaucoup de mozzarella. Ouais, il y a un petit peu d'huile, si on veut ou pas.
Tu l'as fait cuire au riz, et
ça marche bien, mais il s'appelle un bao.
Benabar, qui est aussi l'un de vos grands amis, avec cette chanson que vous écoutiez en 2010.
Et 2010,
année marquante.
C'est la période Jean-François Piège. Vous ouvrez votre propre restaurant gastronomique à Paris, le Jean-François Piège. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est écrit dessus. On se plante pas, il n'y a pas de malentendu.
J'ai fait pire après, j'ai appelé le grand restaurant.
Le grand restaurant, c'est vrai, moi, c'est clair.
Mais après, je me suis toujours dit, tiens, ceux qui comprendront qu'on a un peu d'humour, ils le comprendront. Ceux qui ont pris le comprendre, c'est pas grave. Ça se dit pas, mais il y avait un fameux réalisateur qui avait dit, lors du Festival de Cannes, je crois que ça tombe sous le sens, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas.
Piala
qui avait dit ça. Oh, le grand restaurant, c'était ça. Ouais. Si vous comprenez qu'on a un peu d'humour, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, vous savez quoi, restez dans votre coin.
Et pourquoi avoir attendu autant de temps pour ouvrir votre propre restaurant? On pourrait se dire ça, parce que vous avez été hyper rapide sur toutes les étapes.
Je me pose des questions parfois. Peut-être que, en fait, c'est l'année où je me suis marié, 2010. Je pense qu'aussi, c'est parce que dans la vie, il faut savoir... il faut savoir être... Je pense que mon épouse m'a donné le courage de le faire. Mmh. Voilà. Et donc, si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai fait avec elle, parce que à deux, on est plus fort que tout seul. Et c'est peut-être ça qui m'a donné ce courage-là. Peut-être qu'avant, je n'aurais pas eu ce courage-là.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je le sais, je le sens, vous êtes au top dans cette bande originale et vous serez encore mieux après La voiture ivre de Judas Varsky.
Personne au volant.
C'était la voiture Yves de Judas Varsky. On est bien là, mais vraiment, vraiment bien dans cette bande originale. Et lui, il est là pour maltraiter l'info, le petit salaud. Je veux bien sûr parler de Tanguy Pastureau.
Oui, adieu les stars lascives, rip les saints. L'été sera glacial. La saison 2018 de Fort Boyard, ça va juste être Olivier Mine engoncé dans le caban dégueu de Captain Igloo. L'épreuve des cylindres, appelée épreuve des rouleaux par les puristes, épreuve des nems par les traiteurs asiatiques, épreuve de moi le matin quand je suis pas au top par les hommes qui se vantent, fut lancée en 93 et était plus basique qu'une réponse de Castaner à la question « Que n'aimez-vous pas chez Emmanuel Macron ?» Alors, il y avait de gros rouleaux hein, sur lesquels la star, alors star sur Fort Boyard, ça va de Capucine à Nave à Thomas Joubert. Hein, quand la production décroche Tex, ils sortent le champagne. Pour eux, Kinvé, c'est Alain Delon. Eh bien, s'accroche. Les rouleaux se mettent alors à rouler, hein, comme Doc Gynéco, mais en plus rapide. Et la star doit se coller dessus, sur le ventre, dans la position dite du crapaud qui copule. En 93, le passage des cylindres était filmé de dos, parce qu'à cette époque-là, la pudeur régnait. Hein, la seule star hot, c'était Tabata Cash. Et quand vous achetiez Hot Vidéo pour mieux la connaître, son parcours, ses envies, tout ça, bah, c'était tellement prude qu'il mettait des étoiles sur sa poitrine pour la cacher. J'en ai tiré une aversion totale pour l'astronomie. Aujourd'hui encore, quand je vois Hubert Reeves, j'ai envie de lui crier « Peine à jouir, va te faire voir sur NRJ12, fan de Nabila !» Et autre truc insultant pour qui a un QI de plus de 22. Mais dès 94, l'année suivante, la production de Fort Boyard s'est réunie avec l'équipe et ils se sont dit « Les gars, les rouleaux, si on filme de face, on voit les boobs de la star. » Et ça, pour l'audimat, c'est bon. Si on diffuse juste des images du Bruno Solo en short qui retourne une clepsydre, on va se faire éclater même par Télétoon. Donc ils font un tour de Passepartout excité déclare, je cite, en yes, enfin du cul. Le père Fouras dit, j'ai pas été aussi chaud depuis la revue de Lynn Renault au Lido en 1927, et c'est voté. Ça fait donc 24 ans que l'été, papa reluque tranquillement des stars de seconde zone frotter leur poitrine à des rouleaux. Hein, ça lui rappelle qu'il faudrait emmener la Fiat Tipo au lavage. Tandis que les gosses, autre niveau de lecture, regardent Sébastien Chabal tripoter une migale. Pour la distinguer, la migale, c'est celle qui n'est pas si poilue que ça et qui a 8 pattes. 24 ans que sous couvert d'épreuves sportives en mat dessin. C'est le même principe que le beach volley féminin. Le sport qui, à la plage, intéresse tous les mecs. Un enfant qui crie « Papa, je me noie », le père de famille, captivé par le beach volley, répond « Tais-toi, Kevin, j'essaye de suivre. Il y a corner, enfin, essai à 3 points, enfin, je sais pas. Hein, » Puis le gosse hurle « Papa, je suis dans le rouleau !» Et là, le père crie « Quoi ? Le rouleau, j'arrive hein, !» Pourvu qu'il y ait Agathe Prou en train de se frotter dessus. Voilà, alors on se souviendra ainsi longtemps de Jade Lagardère, la femme du pauvre type à qui des escrocs ont refilé Europe 1, Bourdin, allongé sur le cylindre du fort, de Scheim, de Valérie Beg, nom à jamais gravé au Panthéon du Téton.
Mais il n'y a jamais eu des hommes qui ont participé à cette épreuve des cylindres ?
Si, mais très peu. Hein. En 2007, les Inrecuptibles, le magazine sur Eddie de Préto, les avait comptés. Il y en avait eu 6 contre 98 femmes. Ce à quoi Olivier Mine avait répondu, Fort Boyard, c'est érotisme et culture. Hein, sous-entendu, si vous acceptez de vous taper l'énigme tordue du père Fouras, derrière, il y a des seins. Hein, c'est comme si dans un film avec Clara Morgan, entre deux scènes, il y avait le linguiste Alain Ray, au nom prédestiné pour travailler dans le mix, en train d'expliquer que le terme pornographie venait du grec porné, prostituée, et graphé, écriture. Seulement, l'époque a changé. Il a fallu le mouvement MeToo pour qu'on réalise que réduire la femme à une paire de seins, c'était aussi absurde que de résumer l'homme à ses testicules. Or, personne n'a envie de voir Cyril Féroz farcir les synapses, les bourses sorties du jogging. Ben, le jour où ça arrive, moi, j'arrête de payer la redevance et je quitte le pays, puis l'Europe, puis le monde. Alors, l'épreuve des rouleaux était donc clairement sexiste, mais selon la production, ce n'est pas la raison de son annulation. Parce que si on arrête de filmer des corps de dames dénudées, le concours Miss France 2019, ce sera juste Jean-Pierre Foucault, seul avec une assistante qu'il recouvre à l'aide d'une spatule géante de crème auto-bronzante. Non, ils disent qu'il faut libérer une des cellules du fort parce qu'il n'y en a pas assez et qu'ils en ont besoin pour installer de nouvelles épreuves. Il y a un immense turnover. Hein, c'est comme à l'hôpital quand on dit à Mamie Ghislaine, 4 minutes après l'installation de sa prothèse de hanche, de rentrer chez elle sur le dos de santé qu'elle, parce que derrière, il y a 12 gonzes en train d'attendre pour mourir dans le seul lit dispo. Alors à noter que l'épreuve dite de l'asile, hein, où on enfilait à un candidat une camisole de force, vêtement que tend Bernard-Henri Lévy à sa femme Arielle quand elle lui parle de sortir un nouvel album, est également annulée. Elle n'aura duré qu'une saison, rien à voir avec les cylindres, épreuve mythique du fort, qui a permis en 25 ans à la phrase « je sais pas qui c'est, mais la nature s'est pas foutue de sa gueule » d'être prononcée 1,5 million de fois. Alors pour compenser, la production a demandé à Passe-Temps de tortiller du boule en criant « je pense à toi, téléspectateur chéri, mon amour hein, », mais ça ne sera rien à côté des cylindres. Les soirées érotisme et culture, c'est fini, ne va plus rester que la culture. Nous allons tous vivre l'existence atroce d'Elisabeth Quint d'Arte. Le summum du sexy dans Fort Boyard, ce sera Olivier Mine qui exhibe sa cheville gauche pour se mettre un pansement parce qu'un tigre l'a griffé. Adieu les seins, c'est affreux.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Quel dragueur. Moins mariage là, quand même.
Quel dragueur.
Si, mais fin, ouais, ouais. 3 heures.
Ouais, allez, j'en ai pris quelques vases là-dessus, mais j'en parlais aussi. Hein.
Le bilan est positif.
Mais c'était dur à choisir, parce qu'il y en a. Dans les années 90, il y avait quand même, on avait du choix. J'hésitais entre Kezia Jones, par exemple, Lenny Kravitz.
Ah ouais, bon. Qui revient avec un nouvel album à la rentrée, d'ailleurs, ah Kravitz, ouais. Pour information. Portichette et Glory Box.
Et dans ces années-là, vous, Pascal, vous coécrivez un one-man show. C'est monstrueux.
Ouais.
De Patrice Abou, ouais. Vous coécrivez aussi Tout baigne, une pièce de théâtre produite par un certain Nagui.
Sur la fin,
tout à fait.
Sur la fin, qui a connu un grand succès, qui est adapté au cinéma, ouais, absolument, qui est adapté au cinéma. Vous coécrivez aussi Les Voilà, un spectacle à sketch, toujours avec Patrice Abou. Vous avez beaucoup écrit pour les autres.
Oui, oui, bah oui, c'est comme ça qu'on.
Ouais, non, mais après, tout le monde n'a pas ce talent.
J'ai tous les talents. Oui.
On écrit.
D'autres questions.
Est-ce qu'on écrit d'abord pour soi, ouais. Et après, il se trouve qu'il y a une bande qui se constitue et donc le pour soi devient, bah, pour vous aussi, on y va tous ensemble, parce que tous les comédiens n'ont pas le talent d'auteur, donc certains se retrouvent peut-être dans votre écriture.
Oui, puis on écrit. Au début, j'ai commencé par écrire pour une façon d'aller à l'autre. C'est pas pour arriver et faire des rencontres dans le métier en disant j'aimerais faire ce métier quand parfois il y a des jeunes comédiens qui viennent nous voir en disant on aimerait faire ce métier mais pourquoi tu veux le faire, on sait toujours pas. Mm-hmm. La façon écrire pour l'autre, c'est une formule de politesse pour déjà rentrer en contact avec une proposition. Donc j'ai bien compris que tout seul on n'était pas grand chose. Donc j'ai commencé à écrire et pour les autres et j'ai démarré très jeune. Je me rappelle à l'époque j'écrivais pour le petit théâtre de Bouvard il y a très très longtemps. C'était quand on faisait encore des télés en bois avec des comédiens en mousse. Et c'était une façon toujours de vraiment. Et quand on s'est rencontré avec Nagui, c'était toujours par le biais de cette écriture, de cette proposition. Après, ensemble, on a réfléchi à faire d'autres choses. On a initié une série à Canal+. Ça vient de l'écriture. C'est le nerf de la guerre. Et encore aujourd'hui, c'est l'écriture qui me fait tenir droit et qui me fait me sentir parfois. Parce qu'on fait un métier quand même, c'est un peu la douche écossaise. Il y a des fois, on est malmené, on est bousculé, ouais. Puis parfois notre ego en prend un coup. Donc finalement, l'écriture permet de maintenir, j'allais dire, une certaine forme d'équilibre pour éviter de tomber. C'est devenu mon tuteur.
En 2009, Anne Charrier, vous écoutiez Arcade Fire. Elle connaît les paroles par cœur. Elle chante bien d'ailleurs. Dans, est... dans En attendant Beau Jungles,
oui. elle est ultra pointue en musique. Mais vraiment, hein. Elle est très pointue.
Non mais vous chantez super bien. Je viens de réaliser que je vous ai tout dit sauf ça. Dans les compliments. Non mais c'est vrai, vous chantez bien. Donc, et surtout, vous débarquez à la télé.
Oui, avec Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes. Une série qui est diffusée sur TF1.
Oui.
Et vous restez, je crois, 2 saisons.
Oui.
Et après, vous dites au revoir.
Malgré le succès.
Ouais.
Parce que Maison Close, parce que voilà, j'allais faire Maison Close.
Sur Canal.
Il fallait faire un choix dans le timing. Les deux saisons allaient se tourner en même temps. Et que. C'est vrai, le personnage de Vera me
dans Maison Close, la
m'intéressait davantage. Ouais. Enfin, c'est terrible de dire ça parce que c'est dénigrer l'autre, mais en même temps, il y avait des enjeux plus forts, quelque chose de plus fort à défendre.
On peut pas passer à côté d'un rôle.
Voilà.
C'est ça.
Non, il faut.
C'est le rôle qui vous a appelé. Vous
il faut faire des choix. Ouais. Et à certains moments, et voilà, il faut les faire en son âme et conscience. Et effectivement, à ce moment-là, la question s'est posée de choisir une série qui faisait 7 millions ouais. et une série qui n'en faisait qu'un. Et en même temps, moi, mon métier, c'est de jouer. Et il faut une matière. Enfin, et voilà, et j'ai choisi la matière. C'était un super rôle, hein, Mes Amis, Mes Amours. On s'est éclaté. J'ai adoré cette équipe. C'était un rôle de comédie, elle était très drôle, mais voilà.
Vous n'avez pas fait le choix du confort de la vie et aussi de la comédienne, parce que dans Maison Close, Vera est une prostituée. J'imagine que vos parents ont dû être un peu, comment dire, inquiets.
Fier.
Non, alors c'est marrant parce que moi j'avais hyper peur du retour à la vraie vie et qu'on dise c'est elle qui fait la pute sur Canal. Et en fait, j'ai prévenu mes parents en leur disant attention, après la diffusion, ça va être un petit peu, on vient d'un tout petit village. Ma mère m'a dit oh, moi chérie, je t'ai vue morte maintenant. Alors bon. Le truc à la télé que j'avais fait, je jouais, on commençait sur un corps mort et c'était moi. Et ça l'a. Elle m'a dit oh non, c'est pas. Et pareil, mon père a été très. Voilà, c'est un métier maintenant.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Attention, alerte LOL. Ah non, pardon, autant pour moi, je me suis trompé, c'est Guillermo Guise.
Bonjour les amis.
Non.
Ah, vous me connaissez un peu maintenant dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt quelqu'un qui va mal. Et je fais des appels à l'aide pourtant dans cette émission, mais il n'y a jamais personne qui me tend la main, à part le père Albert, et uniquement pour placer la dite main dans mes zones calorifères. Sérieux, un jour, on va retrouver mon corps un jour dans une pétromonarchie. Et Nagui commentera en disant je comprends pas. Il y a 3 jours encore, je l'interrompais pendant une de ses chroniques. Il avait hyper bien appris. Qui aurait pu deviner? Toutes mes pensées vont à la famille de. Vous dites, il s'appelait comment encore? Gaillardo. Dans quelle émission? Bref, pour paraphraser l'Andy Chronologue. L'endocrinologue italien Rollo Sifrepi, on n'a pas tous la chance d'avoir une grosse sérotonine, mais en plus on est en pleine période de déclaration fiscale et ça me casse le moral. Qu'on comprenne bien, moi, j'ai évidemment rien contre les impôts. L'autre jour j'ai regardé France 3, j'ai signé la pétition online oui aux taxes, non à texte, alors que d'habitude les jeux de mots dans les chroniques, ça me donne envie de crever dans une douzaine d'huîtres. Non vraiment, c'est un concept merveilleux. C'était tellement nul ça. Tellement nul. Non.
C'est la seule que Leïla a composée.
Bref, c'est un concept merveilleux, la contribution collective. Je trouve que c'est un concept merveilleux, vraiment. Quand il y a un pot commun, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, moi je suis toujours enthousiaste à l'idée de mettre ma part. Regardez la chemise de Daniel Morin, par exemple. On s'est tous cotisés pour lui offrir. Et il en est très content. La preuve, il la porte depuis octobre 2016. Mais c'est vrai, dans l'intérieur de son encolure, il y a 9 nouvelles espèces de mouches. S'il y a bien quelqu'un que personne ne voulait toucher pendant son sommet à Koh Lanta, c'est bien notre Daniel. Ouais, vraiment, ça, je vais vous le dire. Non, mais plus je paye d'impôts, moins mieux je me porte. Mais c'est l'acte administratif de remplir ma déclaration d'impôts qui m'oppresse. Vraiment, moi, je crois que je préfère encore l'idée de me faire circoncire à 37-38 ans par un rabbin stagiaire qui, en plus, me gronderait en me disant « Mais enfin, Ernesto, on vous avait déjà soustrait le prépuce. Je ne me dis pas que j'ai pris le RR pour rien. » C'est vrai, comme l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud, je suis atteint de phobie administrative. Thévenoud a carrément déposé le terme « phobie administrative ». On s'est croisés dans les bureaux de l'INPI. Moi, j'étais là pour déposer l'expression « diction dégueulasse ». Il y avait Soprano aussi qui était là pour agréer régression auditive. Enfin, on a sympathisé, mais pour de vrai, la paperasse, les factures et tout, ça m'angoisse. En fait, c'est trop adulte. C'est trop adulte pour moi. Et moi, je suis un enfant dans un corps d'adulte, en fait. Et pourtant, je viens d'un pays où on est généralement sur une tradition inverse. Du coup, là, j'ai trouvé un remède à la phobie. J'ai trouvé un remède à la phobie administrative. En fait, j'ouvre plus du tout mon courrier. Et ouais, c'est peut-être ma dernière chronique en tant que livre. La semaine prochaine, je vous enverrai un MP3 ou ça. Bonjour les amis. Alors, comme vous le savez, je suis dans une prison de Bruxelles, hein, entre un djihadiste et un fan du groupe partenaire particulier. Le moral est bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais blablabla, Van sur Nagui, blablabla, Van sur Daniel Morin, blablabla, bide. J'ai déménagé il y a un mois. C'est vrai. Et on va dire que j'ai pas vraiment signalé mon changement d'adresse. Du coup, je reçois pas vraiment mon courrier. C'est vrai, ma nouvelle boîte de lettres, elle est vide. Vide. Et à chaque fois, je passe devant, oh putain, un argument de Luc Ferry, etc. Enfin, il y a un truc de. Je suis un fantôme là pour le moment. Pour qu'on me retrouve, il faudrait vraiment que la police de Bruxelles écoute France Inter. Lol. Inter n'aimait plus en longues ondes, évidemment. Ah oui, à cause des problèmes du budget liés au salaire de Tanguy Pastureau qui dépasse désormais les 130 chroniques par semaine et empêche Radio France d'avoir un vrai rayonnement à l'international. Bravo Tanguy. Non, de toute façon, il n'y a plus rien à attendre du concept de boîte aux lettres en fait. C'est que des mauvaises nouvelles dans les boîtes aux lettres. Oui. Moi j'ai connu l'époque où tu pouvais espérer, trouver une espèce de lettre d'amour ou au moins une menace de mort, tu vois. Tu recevais une chauve-souris ou une balle avec le fameux si tu retouches à ma femme, la prochaine est pour toi. Enfin, il y avait un côté convivial, quoi, c'est vrai. Il y avait un côté convivial et c'est fini tout ça. Et franchement, moi je suis pas prêt pour ce monde-là. Nagui, il faut vous préparer pour mon hommage.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Attention, alerte lol. En plus, là ça marche. C'est moi. Cannes, le festival de Cannes. Les films, l'alcool, les soirées, les rapports humains, les tests de grossesse. Oh, oh, oh. Du rêve. Mais il y a tous ceux qui travaillent aussi. Eh oui, et qu'est-ce que ça donne au quotidien, le festival de Cannes pour les gens qui y bossent? Eh bien, c'est beaucoup de boulot, mais dans un cadre et des conditions idylliques. Jetons un œil sur le quotidien cannois de Pierre Lescure, le président du festival. 7h30, ça commence tôt. Petit-déj au Martinez. Bonjour, ça va? Ah, étourdissant le film hier soir. Hein. Un café bien serré, s'il vous plaît. Merci. Tiens, mettez-moi une petite coupe, là, ça va me réveiller les papilles. Donnez-moi deux, ça évitera un deuxième voyage à ma table. 12h30. Déjeuner sur la croisette. Bonjour. Hello, how are you? Le film d'hier soir? Je suis encore sur le coup de l'émotion. S'il vous plaît, une petite salade fraîcheur et un vitel, merci. Tiens, mettez-moi un magnum de champagne, j'attends des amis, Vous savez quoi? Mettez-moi en deux, ça vous évitera le voyage. 18h.
C'est tellement ça.
Ouvert, ton micro est ouvert.
18h, la montée des marches. Bonsoir. Hello, nice to see you again. Buonasera. Comment est-ce la maman? Si. Ça va? Ah, le film hier, quelle leçon, quelle claque. Je suis encore en larmes. S'il vous plaît, une coupe. Oui, donnez-moi un shot de tequila, ça va mettre dans l'ambiance. Vous savez quoi? Donnez-moi la bouteille, ça vous évitera de me chercher sur les marches. 23h. Au bar du Martinez. Bonsoir, good evening, yes. Oh, the movie last night, what a movie. Salut, ça va? Le film? Une tuerie. 2 heures de plan fixe sur un caillou avec pas de chute. J'étais pas sûr, mais au final, quelle leçon de cinéma. J'étais tellement bouleversé, à la fin de la séance, j'ai eu des gaz, c'est pour vous dire. S'il vous plaît, oui, un triple whisky, vous serez gentil. Tiens, mettez-moi un petit rail de coke à côté, ça va m'aider pour venir la soirée. Vous savez quoi? Mettez-moi le gramme, j'ai rendez-vous avec Mec BD dans 1 heure. Merci. Bon, tout ça, c'est du boulot, faut pas croire. Hein. Heureusement, enfin, fin de journée, Pierre Lescure peut quand même décompresser. 3h du matin, dans la chambre de la présidente du jury, Kate Blanchett, pour faire le point sur la soirée.
Cannes.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le président du festival est impliqué. À demain. Malheureusement, les amis, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Une bande originale et son best-of réalisé par Marie-Annick Rimbaud, je vous rassure. On est de retour dès lundi 11h avec Olivia Cotte et Pascal Arbillot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes, l'émission préférée de Jennifer Lopez et Thomas Legrand. Dans quelques instants, vous retrouverez Guillaume Gallienne et c'est vrai que ça ne peut pas faire de mal.